VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Eric Manila Kiza avec vous. Il est 18h30, temps universel. D'abord, les titres de cette édition. L'ONU inquiète des violences au Mali qui ont fait déjà au moins 289 morts en 2018. Des affrontements à Bamenda au Cameroun anglophone. Au Nigeria, inondation dans 5 districts de Djibia, au moins 49 morts. 5e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Barack Obama a prononcé un vibrant discours.
The hopes for a better life, the possibility of a moral transformation in the conduct of human affairs.
La CPI souffle ses 20 bougies et les controverses persistent.
Il me semble qu'en effet, on peut dire qu'elle a toujours lieu d'être.
Il y aura l'économie et les sports dans 10 minutes, reprise de la Ligue africaine des champions et les victoires de l'AS Togo, Port et de Mazembe cet après-midi. Mais d'abord le journal. Au Cameroun anglophone, les affrontements entre l'armée et les séparatistes ont fait un mort à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Les séparatistes ont demandé ce matin aux commerçants de fermer boutique et d'observer une journée ville morte. Les forces de sécurité sont alors intervenues. La ville de Bamenda connaît depuis près d'une semaine un fort regain de tension qui a fait plusieurs morts. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU s'inquiète des violences dans la région de Mopti au Mali. Au moins 249 civils ont été tués depuis le début de l'année et les incidents se multiplient depuis le mois de mai. Ces attaques, qui seraient menées par des chasseurs d'oiseaux et d'éléments de milices Dogon, viseraient des membres de la communauté Peul au nom de la lutte contre les djihadistes et du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Au Nigeria, des inondations dues à des pluies torrentielles ont fait au moins 49 morts. Selon les services de secours nigériens, 20 personnes sont toujours portées disparues à la frontière avec le Niger. Les précisions de Irénée Herman Ungbo.
5 villages du district de Djibia ont été inondés lorsqu'une rivière est sortie de son lit dans la nuit du dimanche à lundi suite à des heures de pluie battante. L'annonce des secours de l'état de Katsina a annoncé avoir retrouvé au moins 49 corps. Selon le directeur de l'agence, Aminu Waziri, ces corps proviennent des 5 villages de la région. 24 d'entre eux ont été emportés par les eaux jusqu'au village de Madarumfa et Kantumi au Niger voisin. Les victimes ont été tirées des décombres de leurs maisons effondrées et 20 personnes sont toujours portées disparu. À en croire M. Waziri, plus de 2000 personnes déplacées par les inondations se sont réfugiées dans l'école primaire de Djibia et les blessés ont été conduits à l'hôpital local. Les inondations sont fréquentes dans de nombreuses régions du Nigeria pendant la saison des pluies qui s'étend de mai à septembre. En début de semaine, l'agence météorologique nigériane avait mis en garde contre un risque important d'inondation en raison du changement de régime des précipitations avec des pluies supérieures à la normale.
Le groupe d'État sur le Congo invite le gouvernement de Kinshasa à enquêter sur l'implication de certaines autorités congolaises dans le soutien aux milices qui ont ensanglanté la région du Kasaï en 2016-2017 pour le GEC. La réponse militaire étroite et disproportionnée du gouvernement a aggravé la crise. En Guinée équatoriale, un dirigeant de l'opposition a réclamé la démission du gouvernement au deuxième jour du dialogue national à Malabo. Le secrétaire général du CPDS regrette la non-application du décret présidentiel sur l'amnistie totale des prisonniers politiques. Aucun n'a été libéré, a-t-il dénoncé. De son côté, Ejuenionze Obiang, porte-parole du gouvernement, a rétorqué que le gouvernement est parfaitement légitime. Au Zimbabwe, le chef de l'opposition appelle les observateurs africains à veiller à la transparence des élections générales du 30 juillet. Il s'agit des premières depuis la chute en novembre dernier du président Robert Mugabe. Malgré les craintes de fraude, Nelson Chamisa exclut de boycotter les scrutins. Jacques Aristide.
L'Union africaine et la SADC, la Communauté de développement d'Afrique australe, ont déployé des observateurs électoraux au Zimbabwe où les scrutins pendant l'ère Mugabe ont été systématiquement entachés de fraude et d'intimidation. Pour la première fois en 16 ans, le Zimbabwe a accepté cette année la présence d'observateurs électoraux de l'Union européenne, du Commonwealth et d'organisations américaines. L'actuel président Emmerson Mnangagwa a promis des élections libres et justes, mais l'opposition, victime à des coups de force et des tricheries de la ZANU-PF, au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980, reste très méfiante. Le mouvement pour le changement démocratique a d'ores et déjà dénoncé le manque de transparence dans l'impression des bulletins de vote. Nelson Chamisa a réclamé un audit indépendant des listes électorales et dénoncé des médias partisans. Il affirme avoir déjà tiré la sonnette d'alarme auprès de la SADC et de l'UA. Malgré ce contexte, Nelson Chamisa, candidat à la présidentielle, a exclu de ne pas participer aux élections.
Les Comoriens sont appelés le 30 juillet à se prononcer sur une vaste réforme constitutionnelle. Une victoire du oui permettrait non seulement au président Azali Assoumani de se présenter pour un second mandat consécutif, mais renforcera aussi ses pouvoirs. Je vous le disais dans les titres, l'ancien président américain Barack Obama en Afrique du Sud, il a prononcé un discours dans un stade de Johannesburg dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela, le premier chef d'État noir sud-africain. Abdulrahman Dia.
Quelques 15 000 personnes, dont des invités de marque comme la dernière épouse de Nelson Mandela, Graça Machel, l'ex-présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, ou encore l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, ont suivi le discours de l'ancien président américain. Il a appelé les jeunes à prendre leurs responsabilités et à être actifs en politique et à s'engager également dans les affaires touchant leur avenir. Il leur a demandé de prendre exemple sur Nelson Mandela, qui a sacrifié 27 ans de sa vie pour le combat de la liberté. Icône de la lutte contre l'apartheid, M. Mandela était devenu le premier président noir démocratiquement élu de l'Afrique du Sud en 1994 jusqu'en 1999. L'éloge de Barack Obama était très attendu un an et demi après son départ de la Maison-Blanche. Son entourage l'a présenté comme son discours le plus important depuis sa retraite politique. Nelson Mandela et Barack Obama ne se sont rencontrés qu'une seule fois, en 2005 à Washington. Le président américain avait fait le déplacement en Afrique du Sud pour les obsèques de celui qu'on surnommait Madiba.
Monsieur Obama a également rendu hommage à l'équipe de France de football. Il a salué sa diversité identitaire et a noté que tous ses membres ne ressemblaient pas à des Gaulois. Ils sont français, a-t-il martelé sous les applaudissements du public.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le président américain Donald Trump, toujours sous le feu des critiques aux États-Unis au lendemain du sommet à Helsinki avec le président russe Vladimir Poutine. Le président américain a obstinément refusé de condamner Moscou pour l'ingérence dans la campagne présidentielle américaine de 2016. La classe politique à Washington accuse le président d'avoir eu un ton résolument conciliant avec l'homme fort du Kremlin. Les précisions de John Lyndon.
Lors de son vol de retour de la capitale finlandaise, le président américain a pu constater les conséquences de ses égards vis-à-vis de son homologue russe, se retrouvant vertement critiqué jusque par des ténors du Parti républicain. Le sénateur républicain John McCain a ainsi dénoncé un des pires moments de l'histoire de la présidence américaine. La vague d'indignation d'une rare intensité a conduit M. Trump à assurer qu'il gardait une immense confiance dans ses services de renseignement. Toutefois, je dois aussi reconnaître qu'afin de construire un avenir meilleur, nous ne pouvons pas nous tourner exclusivement vers le passé, étant les deux plus grandes puissances nucléaires mondiales, nous devons nous entendre avec la Russie, a-t-il ajouté sur Twitter. Nouveau tweet rageur ce mardi où Trump dit avoir eu des entretiens avec Poutine bien meilleurs qu'avec l'OTAN. Donald Trump doit réaliser que la Russie n'est pas notre allié, a lancé le chef de file des républicains au Congrès américain Paul Ryan. Le chef de l'opposition démocrate au Sénat Chuck Schumer a lui accusé Donald Trump de s'être montré irréfléchi, dangereux et faible face à son homologue russe. Nancy Pelosi, chef de l'opposition démocrate à la Chambre des représentants, a évoqué un triste jour pour l'Amérique.
John Lindon, un haut responsable iranien, a déclaré que Téhéran se tient prêt à porter ses activités d'enrichissement de l'uranium à un niveau plus élevé si les négociations avec les Européens pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien échouent. En Syrie, au moins 15 civils ont été tués dans des frappes aériennes qui visaient le sud du pays. Damas a ouvert dimanche un nouveau front dans la province qui borde la ligne de démarcation sur le plateau du Golan, en majeure partie occupée et annexée par Israël. Cette offensive a été lancée après avoir repris le contrôle de la quasi-totalité de la province voisine de Dera. En Afghanistan, une quinzaine de talibans ont été tués dans une attaque attribuée au groupe État islamique. L'attaque a visé les funérailles dans le nord du pays. Les deux groupes insurgés sont en concurrence depuis l'apparition de l'État islamique dans l'est du pays en 2015. Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Maintenant, la Minute Écho, signée Nathalie Barge.
Le gouvernement angolais a annulé l'accord attribuant les droits de construction du port de Barra-do-Dande à la compagnie Atlantic Ventures. Cette société dans laquelle Isabel dos Santos, fille de l'ancien président, détient des actions, s'était vue attribuer la gestion du projet en 2017, quelques jours avant la démission du président Eduardo dos Santos. Les économies africaines vont connaître une croissance de 4,1% en 2018, selon le rapport d'Afriximbank sur le commerce en Afrique intitulé « Stimuler le commerce intra-africain ». La mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental africain augmentera de manière significative les flux commerciaux compte tenu du fait de la suppression des barrières douanières et de la réduction des coûts dans le cadre de l'accord. La société de capital risque Nigerian Ventures Platform et l'United States Nigeria Council, qui fournit des informations commerciales aux entreprises américaines et nigérianes, ont lancé le Corporate Leaders Fund. Ce fonds d'investissement financera des start-up innovantes à hauteur de $250,000, en plus d'une assistance technique et de recherche de partenariats.
Et nous passons directement au sport sans transition. C'est Nicolas Pinon ce soir. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence avec le football, bien entendu. Le foot africain reprend ses droits après la Coupe du Monde. Nouvelle journée de la Ligue des Champions sur le continent, n'est-ce pas?
Oui, l'AS Togo Port a battu à domicile les Mamelodi Sundowns 1-0 cet après-midi. Victoire également du tout puissant Mazembe face au Mouloudia Club d'Alger 1-0. Mbabane du Swaziland battu sèchement à domicile 3-0 par l'Étoile Sportive du Sahel. Et puis le match nul 0-0 en Zambie entre le Zesco United et le Primero de Agosto. À suivre également ce mardi, Oroya de Guinée contre le Wydad de Casablanca, Al Ahly d'Égypte contre le Township Rollers du Botswana. L'Espérance de Tunis qui accueille les Kampala City d'Ouganda. Et puis enfin, Sétif face à Difa El Jadida du Maroc.
Et Nico, demain c'est la journée de Coupe de la Confédération.
L'AS Vita Club en déplacement au Ghana chez la Douana Stars. La SEC Mimosa qui accueille le Raja Casablanca. Enimba du Nigeria face au WAC de Côte d'Ivoire. Williamsville, Gormaya du Kenya contre les Young Africans de Tanzanie. Et puis les Algériens de l'USM Alger en déplacement à Kigali chez le Rayon Sport. Al Hilal du Soudan contre Udé Songo du Mozambique. Berkane du Maroc face à El Masri d'Égypte. Et le Kara de Brazzaville en déplacement à Bamako face au Djoliba.
On va maintenant parler de ce changement à la tête de la sélection islandaise.
Emir Hallgrímsson, qui a conduit le petit pays à son tout premier mondial en 2018, a annoncé ce mardi à la surprise générale qu'il quittait son poste. Le technicien gravitait autour de la sélection depuis 2011, d'abord comme adjoint, puis comme co-sélectionneur durant l'Euro 2016 et enfin comme entraîneur en chef depuis 2016. Sous les ordres de Hallgrímsson, l'Islande a obtenu les meilleurs résultats de son histoire, un quart de finale de Coupe d'Europe en 2016 après avoir éliminé l'Angleterre et surtout une participation à la Coupe du Monde où l'Islande a réussi un match héroïque face à l'Argentine de Lionel Messi, match nul, un but partout.
Et avant de nous quitter, Nicolas, le Milan AC devant les tribunaux.
Exclu par l'UEFA de la prochaine Europa League pour avoir violé les règles du fair play financier, le club italien va contester cette décision devant le tribunal arbitral du sport. Depuis le rachat du club par des investisseurs chinois en avril 2017, l'UEFA s'est inquiété de la stabilité financière du consortium qui a dépensé quelque 200 millions d'euros l'été dernier pour recruter de nouveaux joueurs.
C'était les sports de Nicolas Pino. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Eric Banilakiza de retour avec vous. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, le nouveau parti unifié voulu par le président Alassane Ouattara a été lancé hier à Abidjan, à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. Le PDCI, l'un des 2 grands partis de la coalition au pouvoir, est mécontent des termes de l'alliance proposée et a refusé de se joindre au RHDP. Dans son discours devant les militants du nouveau RHDP, le président Ouattara a lancé un appel au rassemblement à Henri Konan Bédier, le président du PDCI. Pour un éclairage, Bagassi Koura a joint le rédacteur en chef du journal Aujourd'hui à Abidjan. Alexis Tanon.
Depuis hier, l'Assemblée générale constituante a eu lieu et le président Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, a été désigné comme le président de ce nouveau parti. Le parti qui est censé regrouper les partis membres du RHDP, l'Assemblée des Tout-Petits, la démocratie et la paix. Seulement, il faut retenir que cela se fait aujourd'hui et de la présence et la participation de l'un des alliés majeurs, comme le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, dirigé par l'ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié.
Et pourquoi cela? Ils n'ont pas été associés?
Je pense qu'Henri Konan Bédié lui-même était l'un des précurseurs du Parti unifié, mais dans la démarche pour arriver à la fonction du Parti unifié, il y a eu quelques divergences quand même.
Et la porte est toujours ouverte pour le PDCI. Hein, je veux dire, est-ce qu'il va avoir des négociations
Oui, la porte, c'est ce qu'on a entendu, qu'il y a des négociations. Le président lui-même, hier, dans son discours, a souhaité que les partis membres de l'RHDP gardent leur configuration d'union pour aller aux élections en 2020 pour qu'ils la gagnent.
Alors, dans cette sortie du chef de l'État, il a notamment mentionné le fait que lui et Bédié allaient travailler pour transmettre le pouvoir à la nouvelle génération en 2020. Tout le monde a vite compris qu'il ne sera pas candidat. C'est aussi votre lecture?
Absolument. Je crois que M. Ouattara vient de mettre fin au débat qui est devenu une interprétation éternelle, ou alors de lever tout équivoque sur sa participation future en tant que candidat à la prochaine élection. En disant que lui et Bédié vont laisser la place à une nouvelle génération en 2020, Ouattara ne dit pas autre chose que ce qu'il avait déjà dit auparavant.
Pourtant, il avait dit que rien ne l'empêchait de postuler un 3e mandat.
Oui. Mais je crois que le président de la République lui-même a compris qu'en un 3e mandat, cela compliquerait plus les choses, peut-être de contribuer à apaiser la situation, étant donné qu'il y a des vérités partout.
Où se situe Guillaume Soro dans tout ça, l'ancien chef de la rébellion et l'ancien premier ministre?
Je crois qu'on avait fait de présenter Guillaume Soro comme candidat, mais lui-même, ouvertement, chaque fois qu'il prend la parole, dit qu'il travaille pour le pouvoir qui est en place. 2020 n'est pas encore arrivé et du Canada, là où il se trouve, il a appelé M. Ouattara à ne pas rompre le dialogue avec le président du PDCI, Henri Konan Bédié.
Donc peut-être c'est aussi le leader de cette nouvelle génération dont parle Ouattara.
C'est possible, il en a les capacités. Vous comprenez qu'il a dirigé la rébellion, il a dirigé la moitié de la Côte d'Ivoire pendant 10 années. Il en a les capacités, mais les contingences politiques font que la position de Guillaume Soro n'est pas encore clairement perçue.
Alexis Tano, rédacteur en chef du journal Aujourd'hui à Abidjan.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur le tête-à-tête inédit lundi dernier entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. S'agit-il d'un nouveau chapitre des relations entre Washington et Moscou ?
Les deux dirigeants ont-ils intérêt à s'entendre? Que peut signifier pour le monde, y compris pour l'Afrique, une normalisation des rapports russo-américains? Mais les points de friction comme l'Ukraine, la Syrie et les accusations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine sont-ils des obstacles à cet éventuel rapprochement? Nous attendions vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Ne manquez pas Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h10.
À Niamey, les parlementaires des 5 pays membres du G5 Sahel ont décidé de mettre sur pied un organe de contrôle de la gouvernance du G5 Sahel. L'objectif est d'améliorer l'orientation stratégique de l'organisme mis en place par 5 États sahéliens dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Plus de détails, le correspondant de VOA Afrique au Niger, Abdelrazak Idrissa.
Au-delà de l'amélioration de l'orientation stratégique du G5 Sahel, l'organe ainsi mis en place et regroupant les parlements des 5 pays membres aidera également, selon le communiqué final, dans l'appropriation par les populations des États membres des objectifs de l'organisation créée en 2014. Hussein Itini, président du Parlement nigérien.
Nous sommes tous d'avis qu'une structure interparlementaire vienne compléter les organes déjà opérationnels du G5 Sahel. À cet organe, j'estime qu'il faudra attribuer une vocation de veille, de conseil, d'information pour mieux créer une synergie des actions visant à assurer la pérennité des programmes de développement et de sécurité dans cette zone. En effet, comme nous le savons tous, le terrorisme et le surcroît de pauvreté qu'il engendre concernent d'abord les peuples. Et pour le combattre, les représentants de ce peuple doivent être associés à tous les niveaux. Il s'agit là d'une évidence logique.
L'architecture institutionnelle du G5 Sahel est ainsi complète, d'où la satisfaction des États membres. Salif Temtoro, vice-président du Parlement burkinabé.
C'est le maillon qui manque dans ce regroupement et dans la lutte contre le terrorisme dans notre région, c'est donc ce maillon du Parlement pour accompagner non seulement l'exécutif, mais aussi accompagner et suivre et contrôler l'apport de nos partenaires dans cette lutte-là. Et les présidents des parlements ont donc décidé de se retrouver, d'échanger et de voir quel pourrait donc être leur apport pour contribuer à la lutte contre le terrorisme et le sous-développement dans notre sous-région.
La création de cet organe de contrôle est vivement saluée par le président en exercice du Conseil des ministres de la Défense du G5 Sahel, le Nigérien Kala Moutari.
En tant que représentants du peuple, ils ont le droit et le devoir d'avoir un droit de regard sur les activités qui se passent dans ce domaine. Vous savez que ce sont les enfants de nos pays qui sont mobilisés pour faire la guerre. Ce sont les richesses de nos pays qui sont investies dans la sécurité. C'est des espaces, c'est des frontières qui sont supprimées pour permettre les actions militaires dans nos pays. Il va de soi que le représentant du peuple, que sont les députés, ait un droit de regard sur le contrôle de richesses, sur la vie de nos citoyens, sur le contrôle de nos frontières. Et il est normal aussi que les gouvernants aient cette caution ou cette dimension de légitimité que les parlementaires pour accompagner cette action. Nous sommes contents aujourd'hui de constater que nos parlementaires s'inscrivent dans la démarche du gouvernement et qu'ils accompagnent cette initiative commune des pays du G5 Sahel.
Abdelrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Malgré la grève qui paralyse le secteur éducatif depuis le 28 mai dernier, les épreuves du baccalauréat ont commencé au Tchad. Toutes séries confondues, ce sont 79 600 candidats qui planchent dans 94 centres répartis dans tout le pays. De nouveaux centres ont été créés dans deux départements de la région de Wadi Fira, à l'est du Tchad. Notre correspondant André Kodmajingar s'est rendu sur place où des jeunes Tchadiens et des réfugiés soudanais passent le bac. Voici son reportage.
Il a fallu attendre 58 ans après l'indépendance du Tchad pour que les autorités en charge de l'enseignement supérieur aient créé un centre d'examen à Guérida, département de Dartama, et un autre à Iriba, département de Kobe, deux villes coloniales de la région de Wadi Fira. Là encore, c'est une initiative du SR pour rapprocher les centres d'examen des camps des réfugiés qui ont intégré le système éducatif tchadien depuis 2014. Le préfet intérimaire du département de Dartama, Togui Yosko Sougou, se réjouit de la création de ce centre d'examen.
Avant, nos candidats partent composer les baccalauréats vers le centre de Bultun, d'Abéché. Dans une saison pluvieuse, vous savez qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour le déplacement de ces candidats autochtones et réfugiés. On est reconnaissant envers la CER.
Un jeune Tchadien, Haoussou Isaac Capitaine, candidat libre à cet examen, estime que les sujets sont abordables. Mais avec la grève de la plateforme syndicale revendicative qui paralyse le secteur éducatif, les candidats officiels auront des problèmes.
C'est des sujets un peu abordables, mais on ne peut pas les dire aussi pour tout élève. Parce que avec la crise, beaucoup disent qu'ils ont fait 2 mois de cours, 3 mois de cours. Avec les 2 mois de cours, on ne peut pas quand même gérer un examen. Mais nous, les candidats libres, c'est des cours qu'on avait vus au départ.
Cependant, Salmé Abdraman Abdelkirim et Hassan Haroum Sossal, respectivement, candidats autochtones et réfugiés, trouvent le sujet facile.
La première épreuve, c'est abordable. Nous n'avons pas pu finir certains de nos programmes, mais Inch'Allah, la réussite sera 100% agréable.
Le bref a été tellement facile et je crois que tous les camarades, ils ont exprimé leur fierté et vraiment, nous n'avons pas de difficultés.
Parlant du partenariat entre l'OASR et le gouvernement tchadien, le chargé de l'éducation pour l'OASR Tchad, Yannick Yanke-Yanke, affirme que le Tchad a beaucoup contribué pour l'éducation des réfugiés qui vivent sur son sol depuis 15 ans.
Le gouvernement est assez réceptif à ce qu'on fait comme travail. Et cela fait maintenant du Tchad l'un des meilleurs parmi les 65 pays qui font partie du patronat mondial pour l'éducation. Et le travail au quotidien, ça se vérifie aujourd'hui avec l'officialisation de 75 écoles primaires, 21 collèges et 12 lycées des camps de réfugiés.
Avec l'appui du SR, 4 nouveaux centres d'examen ont été créés en 2 ans dans les localités les plus reculées. Plus de 1400 réfugiés composent sur l'ensemble du territoire national, dont 58% des filles. La plus jeune des candidats réfugiés cette année a 19 ans et la plus âgée a 44 ans. André Kodnoumadingar Guereda à l'est du Tchad pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La Cour pénale internationale a 20 ans aujourd'hui. C'est le 17 juillet 1998 que le statut de Rome instituant la CPI a été signé par une centaine d'États. Aujourd'hui, la Cour fait l'objet de beaucoup de critiques, notamment sur le fait qu'elle ne ciblerait que les Africains. Pour les organisations de défense des droits humains, la CPI doit continuer de poursuivre les auteurs des crimes de sang, mais aussi ceux ayant commis des crimes sexuels. Abdulhaman Dia a joint à Paris Delphine Carlens, responsable adjointe du desk justice internationale à la FIDH.
C'est la seule cour permanente et indépendante pénale pouvant juger des crimes internationaux et poursuivre les responsables les plus haut placés de ces crimes un peu partout dans le monde. 20 ans après, effectivement, c'est beaucoup et un peu en même temps, c'est peu pour une institution aussi importante que celle-ci. Il me semble qu'en effet, on peut dire qu'elle a toujours lieu d'être, puisque malheureusement, on se trouve face à énormément de crimes internationaux, d'atrocités qui concernent la communauté internationale dans son ensemble. Les États sont mis dans la capacité parfois non la volonté de les enquêter sur ces crimes, ni de poursuivre les plus hauts responsables.
Mais les critiques que la Cour ne ciblerait que les Africains, selon vous, est-ce que cette critique est fondée?
La Cour pénale internationale mène en ce moment 11 enquêtes. La plupart se concernent des situations sur le continent africain, en effet. Une grande partie de ces enquêtes ont été initiées à la demande de ces États africains, nommés la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, l'Ouganda ou même la Côte d'Ivoire, ont eux-mêmes indiqué qu'ils n'avaient pas la capacité de poursuivre les plus hauts responsables des crimes commis sur leur territoire et ont demandé à la CPI de d'enquêter. Après, parmi ces 11 enquêtes, il y a également une enquête sur la Géorgie qui implique des crimes commis sur le territoire de Géorgie par différentes parties, y compris, on peut dire effectivement, des responsables qui est potentiel de suspect qui serait de Russie, concerne l'Afghanistan, qui concerne l'Ukraine et d'autres situations en dehors de l'Afrique.
Des pays comme le Burundi ont quitté la CPI, l'Union africaine fait bloc contre la CPI. Est-ce que cela ne risque pas un peu d'affaiblir la Cour tout de même?
Oui, je suis d'accord qu'effectivement, un des grands défis de la Cour aujourd'hui et dans les années à venir, c'est son universalité. Et en effet, elle dépend beaucoup de la coopération des États. Aujourd'hui, on a 123 États partis au statut de la Cour. Le Burundi s'est retiré, c'est le seul pour le moment qui s'est retiré de la Cour pénale internationale et une enquête a été ouverte avant le délai limite sur les crimes commis dans ce territoire. Oui, effectivement, sans coopération active des États, la Cour peut en effet être affaiblie.
C'était Delphine Carlins, responsable adjointe du desk Justice internationale à la FIDH. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de votre écoute. À la mise en onde, Lionel Unanira Gahima, à la console Bir Barba, à la présentation, Eric Mandirakiza. Ne laissez pas le monde changer votre sourire, mais laissez votre sourire changer le monde. On reste en contact sur Facebook et l'actualité continue.